RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Lors du sommet mondial sur le climat fin 2019, la COP25 à Madrid, la Commission européenne a lancé son pacte vert pour l'Europe. Ce plan ambitieux vise à faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique, avec des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Chevalier, maître de conférence en droit public à l'Université de Limoges, et membre du réseau Team Europe, France de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Émilie Chevalier.
Bonjour.
Alors, pour commencer, qu'est-ce que le pacte vert européen ?
Alors, le pacte vert européen, on en entend parler aussi avec sa dénomination anglaise, le Green Deal. Donc, on voit ici la référence historique au New Deal qui avait permis de sortir les États-Unis de la crise de 1929. Donc, je crois que le symbole est voulu et est tout à fait réel. Alors, ce pacte vert européen fait référence à un grand mouvement, un grand programme d'aide en vue de lutter contre le changement climatique, en vue de renforcer la protection de l'environnement au niveau européen. Mais surtout, en fait, ce plan a une dimension d'abord financière, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de mobiliser des ressources en vue de parvenir aux objectifs que j'ai cités. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'idée est aussi que désormais, aucun fonds européen ne pourra être utilisé pour soutenir des activités qui auraient un impact négatif sur l'environnement ou sur le climat. C'est le principe, alors pareil, c'est une terminologie anglaise, le « do not harm ». Donc, aucun fonds européen, et on sait que les fonds européens représentent une part significative de l'action européenne au sein des États membres, donc aucun fonds, aucun argent européen ne doit avoir pour conséquence donc d'impacter l'environnement ou le changement climatique négativement.
Alors, pourquoi la Commission européenne a-t-elle décidé de mettre en place ce pacte vert ?
Alors là aussi, c'est assez intéressant parce que bon, il y a des raisons de fond, mais aussi des raisons institutionnelles. Alors, des raisons de fond, bien, ce pacte vert s'inscrit dans la lignée des accords de Paris, qui donc ont aussi cherché à ce que les États, donc l'Union européenne et aussi les États dans le monde, prennent des engagements plus fermes en faveur de la lutte contre le changement climatique, dans le but de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et vous l'avez dit, l'Union européenne a toujours souhaité être un leader sur ces questions au niveau mondial. Mais je dirais qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été les élections parlementaires européennes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, si nos auditeurs s'en souviennent, en 2019, aux élections donc de 2019, le parti écologiste, les Verts, tel qu'on les appelle au niveau européen, ont fait une certaine percée dans les résultats. Et donc aujourd'hui, vous avez un parti vert qui est assez représenté au niveau du Parlement européen, et qui a joué un rôle important, décisif, pour l'investiture de la nouvelle Commission européenne, et donc de la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a donc eu besoin de verdir son discours en vue d'obtenir le soutien de ses parlementaires. Donc, je ne dis pas évidemment que tout ça ne serait jamais arrivé si les Verts n'avaient pas fait cette poussée, mais très clairement, ça a été un élément déclencheur favorable. Pour sauter le pas, on ne peut évidemment s'empêcher aussi de dire que, bon, heureusement, c'était avant le Covid, quoi. En fait, c'était avant la crise sanitaire qui a conduit aussi l'Union européenne à avoir d'autres priorités, notamment en termes de plan de relance. Mais voilà, au moins, ça a permis d'avoir un ancrage fort de ces idées-là au niveau européen. Et je crois qu'il ne sera pas possible pour l'Union européenne de revenir en arrière.
Alors, si on rentre dans le détail de ce pacte vert, quels sont les grands axes qui sont mis en place ?
Donc, on retrouve ici, je dirais, des éléments assez classiques relatifs à la protection de l'environnement. Donc, par exemple, dans ce pacte vert, on met l'accent sur l'importance de protéger la biodiversité. Alors, ça, c'est un aspect aussi assez intéressant parce que ces dernières années, on se focalise beaucoup sur la lutte contre le changement climatique et à raison, due à l'urgence qui est ici, qui est présente. Mais en matière environnementale, il ne faut pas oublier l'importance de la protection de la biodiversité, justement, pour parvenir à un monde sains, acceptables pour que nous, êtres humains, nous vivions dans ce monde. Donc, protection de la biodiversité, promotion de l'économie circulaire. Vous voyez, l'idée de l'Union européenne, c'est évidemment, ça n'est pas de prôner la décroissance économique, mais de prôner donc cette fameuse idée de croissance verte, en tout cas avec une attention particulière, donc portée au circuit court, alors à l'échelle européenne bien sûr, au circuit court, mais aussi à la ruralité, aux solutions qui peuvent venir du bas. Donc c'est aussi un changement, alors ou une évolution, un enrichissement peut-être de perspective. Évidemment aussi, il y a un grand volet qui est relatif à l'impact carbone, hein, et donc à limiter l'impact carbone des activités de l'Union, ou comme je le disais tout à l'heure, des activités financées par l'Union européenne. C'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre les déchets. Donc, vous voyez, tout un tas de choses qui nous semblent assez familières. Donc, on pourrait s'interroger sur l'utilité. Bah, voilà, pourquoi est-ce qu'on redit quelque chose que l'on connaît déjà ? En fait, ici, c'est vraiment le fait d'avoir acté politiquement que désormais, ben, ça n'est pas que l'on va traiter ces sujets-là parmi d'autres. Non, c'est que ces sujets-là sont au cœur de l'action de l'Union européenne et que toutes les actions de l'Union européenne doivent aller dans le sens de mener des actions favorables pour ces enjeux, en tout cas, pour faire face à ces enjeux.
Alors, tout à l'heure, vous parliez notamment de l'aspect financier. Quel est le coût de ce pacte et comment va-t-il être financé ?
Alors, le coût de ce pacte, d'après les chiffres que l'on trouve actuellement, hein, je veux dire, ils peuvent toujours évoluer, on est à une échelle de 1800 milliards d'euros. Alors, il y a deux types de financement. Alors, là aussi, c'est intéressant, ça nous montre comment, ben, à ces enjeux sociétaux qui peuvent être évidemment très très angoissants, très anxiogènes pour nous, sont également source d'innovation et de créativité. Et on retrouve cela au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'une partie donc de ces 1800 milliards, je crois 750 milliards, vont être financés par de l'emprunt. Et en fait, c'est la première fois que l'Union européenne va emprunter sur les marchés. Alors, ça se discuterait économiquement, sans doute, mais voilà, c'est déjà quelque chose d'innovant. L'autre partie de l'enveloppe, évidemment la plus grosse moitié, ça va être financé sur ce qu'on appelle les ressources propres de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire le budget de l'Union européenne, vous savez, qui est financé largement par les États, par des prélèvements sur la TVA, par les droits de douane aussi aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et là aussi, ben, ça pousse à des innovations intéressantes. On en a entendu parler il y a quelques jours. Ça va être le développement de la taxe carbone aux frontières extérieure de l'Union européenne, qui va être un outil, selon moi, très très intéressant, donc pour s'assurer que les produits importés donc de pays tiers de l'Union européenne vers l'Union européenne et qui auraient un impact carbone trop important, eh bien, soit taxé afin, évidemment, de rééquilibrer l'arrivée sur le marché de ces produits-là. Donc, cette taxe carbone va permettre de financer ces actions-là. De même, on en a parlé aussi, ça fait l'actualité, la fameuse taxe sur les GAFAM. Hein, donc, avec l'intervention de Joe Biden, on peut imaginer qu'on va avoir peut-être une impulsion plus grande donnée sur ces questions. Donc, voilà, ça clairement, il faut de l'argent. Bah, il faut aussi développer de nouvelles sources pour ces fonds. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, l'urgence fait que l'on est quand même plus décidé à faire pression sur les États, sur les acteurs, hein, pour qu'ils sautent le pas vers de nouvelles taxes.
Alors, est-ce que ce pacte vert a fait l'unanimité auprès des 27 pays membres de l'Union européenne ?
Alors, unanimité de façade, sans doute. Faut pas être naïf. Il y a toujours évidemment extrêmement beaucoup de négociations au niveau européen, mais de façade peut-être aussi pas forcée évidemment, mais de façade, mais qui a conduit en fait les États aussi à se jeter là-dedans et à l'accepter. Pourquoi ? Ben, je le disais tout à l'heure, en raison des résultats aux élections parlementaires européennes et donc de la création d'un mouvement qui a emporté aussi les États peut-être les plus réfractaires. Toutefois, il faut bien penser que, à l'instar de ce qui se passe généralement au niveau de l'Union européenne, bien le prix d'un accord unanime se fait souvent ou pas souvent par des négociations plus individuelles. Et donc, par exemple, des États, alors je pense à la Pologne, qui a souhaité négocier un temps plus long pour arriver aux objectifs de lutte contre le changement climatique tels qu'ils avaient été émis par l'Union européenne, ou encore des pays comme la République tchèque ou la Hongrie qui ont souhaité que soit réaffirmée la souveraineté des États membres quant à leur choix de bouquet énergétique. En fait, ils ne souhaitaient pas que l'Union européenne prenne parti dans le sens d'un type d'énergie au détriment d'une autre, même si évidemment dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, le charbon ne semble pas être la solution la plus propice, mais notamment ils voulaient sauvegarder leur choix en matière de nucléaire. Donc vous voyez des petites touches comme ça de négociation, d'individualisation, mais qui permettent finalement d'aller vers un élan commun.
Alors pour nous, citoyens européens, qu'est-ce que cela va concrètement apporter comme changement ?
Beaucoup de changements pour notre qualité de vie, pour justement notre capacité à faire face à ces enjeux climatiques. Enfin, je veux dire, l'urgence, elle est là, quoi. Donc, c'est à la fois quelque chose qui doit être abordé collectivement, mais qui a évidemment un impact individuel. On pensera aux conséquences sur la santé humaine, hein. La qualité de l'air est une cause de décès ou une cause de maladie grave pour bon nombre d'individus en Europe. Donc, déjà, des conséquences immédiates en termes d'amélioration de la santé ou de la qualité de vie. Et donc la capacité surtout, je dirais, de faire face aux enjeux climatiques, c'est-à-dire que l'Union européenne s'est fixée pour 2030 de réduire à un niveau de 55% ses émissions de gaz à effet de serre, et vous l'avez dit, en 2050, d'être neutre climatiquement. Ça veut dire que peut-être que de cette manière-là, on arrivera à faire face à cet enjeu. Enfin, je veux dire, l'urgence, elle est là. Si on ne fait rien, notre environnement va fortement se dégrader, nos conditions de vie également. On va le voir aussi, ce pacte vert va entraîner l'adoption d'un certain nombre de législations européennes. Hein, donc là, on dénombre une cinquantaine de législations qui vont devoir être adoptées. Donc on aura sans doute de nouvelles règles en matière, par exemple, de traitement des déchets. Par exemple, on a déjà des règles en matière de pollution des plastiques aussi. Donc dans la vie quotidienne, voilà, des règles qui vont essayer d'insuffler de nouveaux comportements. Mais j'insiste sur la dimension véritablement collective, en fait. Ça ne va pas être un effet peut-être immédiat que l'on verra demain, mais il faut savoir se projeter à court terme, à moyen terme. Hein, et donc peut-être que cette action européenne permet de constituer un outil majeur pour faire face à cette urgence climatique qui nous impactera tous.
Eh bien, merci Émilie Chevalier pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Je rappelle que donc la Maison de l'Europe organise un Café de l'Europe sur cette thématique animé par Émilie Chevalier. Donc ce sera le 22 juin à 18h au phare qui se trouve avenue Gambetta à Limoges. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et dernière chronique Europe de la saison le 1er juillet.